The knee?
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibble sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't...
Nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll!
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tunic. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de commencer, petit point promo en vous rappelant que notre campagne de financement est lancée. Si vous souhaitez et pouvez nous soutenir financièrement, vous trouverez le lien vers notre Ko-fi dans la description de l'émission ou sur nos réseaux sociaux. En nous aidant mensuellement, vous aurez accès aux émissions en avant-première, ainsi qu'aux versions longues et petit à petit à d'autres contenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Calypso, Gomeissa, Maxime et Tizona. Comment allez-vous ?
Eh ben super.
Hello, ça va bien ?
Ça va. Hein.
Super. Et ce mois-ci, nous recevons Raquel de Miranda, narrative designer freelance qui a travaillé sur des productions de tailles diverses, du triple A à l'indé et qui cherche à renforcer la cohésion thématique entre mécanique et narration partout où elle passe. Comment vas-tu Raquel ?
Bonjour, bah merci de m'accueillir, ça va très bien.
Bah écoute, on a hâte de t'écouter. Et sans plus tarder, on commence avec la chronique de Tizona qui porte sur le privilège de jouer. Tizona, c'est à toi.
Merci. Le jeu vidéo, c'est un luxe, c'est pas nouveau. Ça l'est depuis que nous sommes enfants, quels que soient les âges que nous avons actuellement entre nous. Que ce soit les cartouches NES qui correspondaient, si on les aligne sur le prix de l'inflation actuelle, à environ 130€ le jeu, si ce n'est plus. Les cartes mémoire PS2 qui étaient à plus de 40€ et les autres accessoires à un prix qu'aujourd'hui on verrait comme scandaleux, qui nous font considérer notre enfance avec un petit peu moins de nostalgie, ça a toujours été un certain privilège. Alors ça fait des années que le jeu nous donne l'illusion de son accessibilité, j'entends par accessibilité un accès facilité, qui n'est en soi, je pense, pas tout à fait fourvoyé. On a la promesse du Game Pass comme d'autres abonnements services qui permettent de jouer à un palmarès de jeux à prix a priori réduit, notamment le jour de leur sortie. On a les jeux offerts par Epic, les bundles de jeux ou les soldes fréquents, les très nombreux jeux free-to-play, que ce soit sur PC, console ou mobile, ou encore des jeux indépendants généralement à prix assez modeste, pour ne pas dire gratuit pour certains. Tout ceci trouve écho avec nos usages personnels, hein. Finalement, on a des consommations qui sont plus rapides, transmédia, on a la tentation du marché gris, les microtransactions étalées sur plusieurs mois, le picorage de divers jeux, c'est très bien de picorer, dans un écosystème qui ne cesse de se charger de nouvelles sorties. Alors c'est assez factuel, hein, le jeu il est devenu au fil des années à portée de quasi tout le monde. Ça se matérialise par une évolution constante du nombre de joueurs et de joueuses à travers le monde et des âges, si bien que l'industrie du jeu vidéo est dominante dans le domaine du divertissement depuis un paquet d'années. Alors on assiste cependant depuis ces derniers mois à un comportement que j'oserais qualifier d'assez décomplexé de la part du marché console. L'envolée du prix des composants, dont évidemment de la RAM, merci le développement de l'IA générative et de tous les tech bros qui l'ont poussé, ainsi que le retrait momentané de Microsoft dans la guerre des consoles a causé une situation de monopole du console salon du côté PlayStation. Alors, je parlerai pas de Nintendo qui fidélise un public déjà conquis, ce qui ne représente pas spécialement un danger pour PlayStation, selon moi et je pense selon eux, et on se bat à mon avis dans de cours différentes, même s'il y a tout un tas de problématiques qui sont partagées. Alors c'est une actualité qui sert aussi à nous rappeler que les marques sont des marques, comme Apple, le PlayStation a une solide fanbase prête à courber les chines à chaque packaging, rappelant les belles années PS1. Alors, c'est quoi ces actualités dont je parle et qui sont clairement dirigées vers PlayStation ? Alors de base, j'avais prévu de ne parler que d'une seule actualité, mais le hasard du capitalisme et ses surprises fait que que ces derniers jours alimentent davantage mon propos. Alors la première actualité dont je voulais parler à la base, c'était un article publié par Bloomberg il y a cela à peu près un mois, qui mentionnait la latente décision de Sony envers l'arrêt des portages PC de ses titres exclusifs. Donc à savoir que le dernier Stranding il est passé entre les balles, mais ça ne sera pas le cas de Ghost of Yotei ou de Saros qui sortira prochainement. Non seulement c'est pas terrible d'un point de vue économique, surtout que les stratégies de portage de Sony jusqu'à présent n'étaient pas très viables. Sortir un jeu plus d'un an plus tard sur PC, j'appelle pas forcément ça à faire sauter une exclusivité vu que la clientèle cible elle a déjà acheté le jeu. Puis il faut voir le prix des jeux quand ils arrivent sur Steam qui est assez élevé, ce qui a eu notamment un impact notable sur Ratchet & Clank Rift Apart qui s'est assez mal vendu. Mais aussi, ça a évidemment des répercussions niveau accessibilité. Parce que PlayStation a beau avoir proposé des progrès d'aménagement d'accessibilité sur sa console ou par des jeux first party proposés, le PC il permet toujours plus d'aménagements qui sont impossibles sur les consoles directement. Donc par exemple, on va avoir des choses qui sont liées à la compatibilité avec d'autres types de contrôleurs alternatifs, des lecteurs d'écran, la possibilité d'installer des mods ou des logiciels qui permettent de tricher, etc. Mais au cas où ma chronique n'était pas assez fournie, Sony a délivré deux autres actualités. Je m'en serais passé. Premièrement, la fermeture du studio Bluepoint, qui est légèrement antérieure, ceci dit, à l'article. Alors, on est d'accord que sur les choix artistiques du studio envers les titres qui étaient déjà portés peuvent être discutés. Hein, je pense à Shadow of the Colossus, Demon's Souls. Mais il n'empêche que les portages de jeux, c'est propice à ajouter de la Quality of Life. La 13e version augmentée Director's Cut HD de Last of Us, je suis perdu à force, ajouter un paquet d'options d'accessibilité absentes de l'original, la mettant au niveau des derniers jeux, qui est déjà vraiment très fourni sur le nombre d'options possibles. Donc en fait, avoir moins de portages PC, c'est aussi se couper de ça. Et aussi, accessoirement, ça veut dire plus de devs à la rue, par l'entreprise la plus riche de l'industrie, devant Tencent et Microsoft. Enfin, l'actualité toute chaude, c'est l'augmentation sensible du prix de la PS5 qui prend 100 à 150 euros par version qui nous semble dans les dents. Pour jouer de manière optimale, c'est-à-dire sans avoir à faire le choix entre le mode performance et le mode résolution, et ben, on prend la PS5 Pro et on ajoute un lecteur de disque, sinon on paye nos jeux entre 80 et 90 euros sur la boutique et on ne peut pas bénéficier du marché de l'occasion. Donc on passe à la modique somme de 749 euros à 899 euros en ajoutant le lecteur à 80 euros et on se retrouve à 979 euros contre 830 euros pour avoir une console à peu près fonctionnelle. Alors ce qui représente quand même la deuxième augmentation du prix de la console au fil des années, elle était déjà passée pour son édition normale de 500 à 550 puis 600 euros, ce qui est assez explosif pour une console qui est relativement sur sa fin de vie. Le tout accompagné d'une communication assez alarmiste et un petit peu prédatoriale pour encourager les gens à se procurer l'objet sacré avant son augmentation. Alors pour rappel, le SMIC à l'heure actuelle c'est 1443 euros net, soit une PS5 Pro et demi, à une époque où je suis pas personnellement sûr que ça représente un investissement encore viable. Force est de constater qu'en l'espace de 2 mois, c'est un coup dur, le parti pris PlayStation est celui de se focaliser sur un public privilégié, que ce soit économiquement et socialement, on va pas se mentir, hein, par extension, et idéalement valide. En plus, la PS5, souvent valorisée face au PC par le confort salon qu'elle apportait pour moins cher, nécessitait tout de même une connexion solide, de la place sur son disque dur et d'autres types de restrictions. Mais aussi, ça reste une console qui fait tourner des jeux. Et oui, je peux pas enregistrer des chroniques 1 heure et des pixels sur la console, ce qui reste donc moins bien qu'un PC, c'est QFD. En conclusion et plus sérieusement, ces actualités, ce ne sont que des volets dans une machine plus importante alimentée par les rouages du capitalisme. Son obsession de la performance est du toujours plus, sauf quand ça touche les politiques RH et les effectifs humains, où on a tendance à viser le toujours moins. Et c'est toujours apparemment plus intéressant d'attirer les sous, quitte à éloigner les gens. Bref, allez sur Itch, il y a des jeux gratuits ou pas chers qui se lancent parfois, même sur des navigateurs.
Merci beaucoup Tizona. Est-ce que quelqu'un veut réagir ?
Ouais. Je sais pas si c'est en lien direct avec le sujet de ta chronique, mais ça l'est quand même un tout petit peu, je pense. C'est que j'ai vu justement récemment une vidéo d'une personne, le nom m'échappe, mais qui expliquait que, comme tu l'as très bien dit dans ta chronique, il faut pas forcément toujours se focaliser sur l'actualité, parce que là, si on se focalise que sur les dernières sorties, évidemment, ça devient vraiment un loisir de luxe. Mais il y a plein de manières différentes aujourd'hui de découvrir des jeux ou de redécouvrir des jeux, ne serait-ce que grâce, je ne sais pas si on peut en parler, mais l'émulation malgré tout, ça reste une forme de préservation de certains jeux que beaucoup d'éditeurs ne veulent pas faire ce travail de préservation et du coup l'émulation peut rester un outil assez pratique pour accéder à plein de jeux, quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis aussi les vieilles consoles notamment. Des vieilles Super NES, tout ça, ça peut aujourd'hui se modder. Il y a des tutos sur Internet qui permettent de faire en sorte de les modder pour utiliser des manettes différentes, par exemple. Donc, c'est sûr, ça demande une autre forme d'investissement, un peu plus matériel et technique, mais c'est, voilà, le jeu vidéo, même les vieux jeux, ils continuent d'exister, alors même que les nouveautés, elles, sont excessivement chères, quoi.
Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment pour la partie vitrine du jeu vidéo, parce que je pense que la PlayStation, ça parle à tout le monde, même aux gens qui ne vont pas forcément se renseigner, mais qui veulent une console de jeu. Et c'est un peu la dichotomie qui, finalement, ne l'est plus trop une fois qu'on s'intéresse un peu au sujet, de se dire, c'est évidemment ceux qui récupèrent le plus d'argent qui vont proposer les produits les plus chers, mais bien évidemment, il y a énormément de possibilités, d'opportunités, au-delà de celles que j'ai citées au début, qui sont des fois des modèles économiques un petit peu un petit peu différent, hein, mais le free-to-play, ça reste une manière de jouer, même s'il y a des fois des modèles économiques qui sont évidemment qui visent à tenter la personne qui joue, ça reste des manières de jouer. Il y a l'émulation dont tu parles, hein, qu'elle soit... Enfin, l'émulation n'est pas censée être illégale si tu possèdes un exemplaire du jeu chez toi, mais de manière générale, l'émulation, c'est aussi une manière de conserver le jeu vidéo, et toute la question, elle se pose depuis ces dernières années aussi par rapport à notre patrimoine du jeu vidéo. Mais par exemple, si on veut quelque chose un petit peu plus brandé, Nintendo, ce qu'ils proposent avec c'est leur service d'abonnement, il y a quand même accès à de l'émulation pour pas excessivement cher, si tant est qu'on reste pas abonné toute l'année de manière passive. Donc on a quand même accès à pas mal de titres, les différents bundles. Alors il faut toujours faire un petit peu attention, parce que sur la question des bundles, il y a des organismes qui gèrent les différents profits qui sont distribués, donc c'est aussi une recommandation, hein. Faites attention quand vous payez des bundles, des fois quand c'est à but caritatif, les sites prennent une petite partie que vous pouvez personnaliser. Mais il y a plein d'opportunités, hein. Je parle de Itch, mais évidemment même sur Steam, il y a pas mal de petites équipes, de devs. Il y a beaucoup trop de jeux gratuits sur Steam qui méritent évidemment d'être payés, donc il y a toujours tout un tas de manières alternatives de consommer et de jouer. La chose étant, c'est qu'évidemment c'est pas forcément ça qu'on va mettre le plus en lumière, et ça demande un petit peu de curiosité et de farfouiller un petit peu.
Merci beaucoup. Du coup, maintenant on va écouter Calypso pour sa chronique.
Depuis septembre, j'ai débuté mon doctorat sur la thématique des jeux comme outil de médiation pour la santé. Je passe donc un nombre considérable d'heures à bouquiner, et récemment j'ai fini un ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui. L'autrice est Sandra Danilovic, une associate professor en game design et développement à la faculté des sciences humaines et sociales au sein de l'université Wilfrid Laurier au Canada. À côté de son métier d'enseignante, elle est réalisatrice indépendante de films documentaires, certains ont d'ailleurs reçu des prix. Elle est également artiste et designer multimédia. Le livre en question s'intitule Games, Art for Health, et il est sorti en 2024. On y retrouve 7 chapitres qui traitent tous d'un aspect orbitant autour de la santé à l'aune des jeux vidéo. Sandra Danilovic décrit selon elle 3 grandes catégories de jeux. Les mainstream, ceux à grand budget pour le divertissement, les jeux indés et plus artsy avec un côté souvent plus narratif, et enfin les jeux sérieux. Elle y ajoute une quatrième catégorie qu'elle juge nouvelle et nécessaire, Games for Creative Health. Des jeux conçus par des passionnés, pas par des professionnels du monde du jeu, et qui ne sont pas des supports thérapeutiques comme leur nom pourrait le laisser entendre. Il s'agit de jeux qui permettent de sensibiliser à la complexité de vivre avec des maladies chroniques, des handicaps, etc. Ainsi, cette catégorie pour elle permet d'étudier des jeux comme une expression d'un narratif dans un milieu médical mais joué dans un contexte non clinique. En bref, des jeux comme témoins de moments de vie dans la maladie, mais ni développés ni joués spécifiquement pour un public de personnes malades. L'autrice retrace des notions issues des Game Studies afin de redessiner les contours de ce qui définit un jeu et le fait de jouer. Elle conclut que, par leur structure, ils offrent un pouvoir rhétorique puissant pour immerger davantage les joueuses, notamment dans des contextes de santé. Cela permettrait d'avoir une meilleure compréhension par l'incarnation d'un rôle nous mettant dans le corps d'un patient, d'un soignant, d'un proche aidant. Elle défend ainsi que les jeux permettraient d'explorer des fragments de la maladie, notamment par le biais de la narration, et ils y ajouteraient une approche davantage humaniste, philosophique et culturelle. Si les jeux ont déjà trouvé leur place dans le milieu médical, que ce soit pour apprendre à gérer sa maladie, mieux appréhender une opération, etc., les jeux dont l'autrice nous fait part sont finalement plutôt à l'opposé de ce prisme. Elle dédie tout un chapitre aux jeux sur la santé mentale, par exemple, et à quel point ils permettent de faire éprouver aux joueuses une infime partie de ce que quelqu'un en dépression, par exemple, pourrait expérimenter au quotidien. Le public joueur est habitué à trouver une palette fournie en choix et solutions au sein des jeux mainstream. Il serait alors un véritable challenge de restreindre drastiquement cette palette de choix afin de mieux connecter le joueur à son expérience de jeu. De même, certains symptômes de pathologie mentale deviennent de véritables éléments de gameplay, poussant davantage l'immersion, et ce, même par la métaphore. Imaginez jouer à un jeu où vos capacités sont moindres et les choix exposés particulièrement complexes, le tout peu, voire pas du tout récompensé. Selon elle, c'est une manière efficace de permettre de se mettre à la place d'autrui et de saisir un peu mieux son quotidien. Dans cet esprit, elle soutient l'idée d'utiliser ce type de jeu auprès des futurs personnels du corps médical afin de les former à la relation avec les patients et pour construire leur empathie dans ce contexte. Enfin, les derniers chapitres du livre traitent des communautés autour des Care Games, notamment car Sandra a travaillé avec des game designers dans le cadre de Game Jams, où l'objectif était de concevoir des jeux sur des expériences de vie, comme les troubles mentaux, du neurodéveloppement, les handicaps moteurs, etc. Selon elle, le potentiel d'application de Game Jams au champ de la santé est sans limite, et personnellement j'aspire beaucoup aussi à cette idée. En ayant travaillé dans la pédagogie par le jeu, la conception de jeu était l'une des manières les plus efficaces pour l'apprentissage et l'ancrage de connaissances. Ce type de communauté permet également de réfléchir à une autre culture du travail, plus saine et plus respectueuse de l'humain. Ces espaces seraient safe pour les opprimés qui souhaitent créer des jeux avec des intentions sans concevoir dans une culture du crunch. Elle aborde d'autres thématiques dans son ouvrage, notamment sur la notion d'accessibilité dans les jeux, mais je réserve cela pour une prochaine chronique car il s'agit des dernières recherches sur lesquelles je travaille en ce moment. Et merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci Calypso pour ta chronique et on passe à la suite. Donc maintenant, on va écouter Gomeïssa qui nous propose une chronique sur les gorilles qui font écho à une éléphante hors la loi. Gomeïssa, on t'écoute.
Souvent, quand je découvre un jeu et qu'il résonne super fort avec ma sensibilité, je suis certain que le jeu a été créé pour dire exactement ce que j'y lis, et même que c'est ce message qui est à l'origine du projet. Dans Ape Out, on joue à travers 4 albums vinyles, 4 gorilles captifs des humains qui brisent leur cage et forcent leur chemin vers leur liberté. Hors d'atteindre des humains qui veulent les contraindre à utiliser leur corps pour expérimenter ou juste pour le plaisir de se divertir de leur présence à disposition. Alors c'est un jeu court, mais difficile pour plusieurs raisons. Déjà, les niveaux à parcourir sont différents à chaque tentative, il n'y a pas de place pour le par cœur, seulement une fuite effrénée guidée par notre intuition et des décisions prises en une fraction de seconde. La rage de vivre rythmée par des centaines de sons de batterie qui créent la musique dynamique du jeu. Frapper, prendre une balle, défoncer une porte, se cacher... Toutes ces actions se traduisent par des percussions, dans un rythme qui s'adapte à l'action comme une impro de jazz. Les humains sont nombreux et armés de façon démesurée. Armes à feu, explosifs, bazookas, lance-flammes, là où le gorille ne peut que pousser pour projeter les corps s'exploser contre les murs, ou les attraper pour se servir de leur corps comme de boucliers de chair, et les faire goûter à leur propre médecine dans un renversement vengeur de l'objectification qu'ils nous ont fait subir. Quand on lance le dernier album du jeu, on commence gorille libre, dans la forêt. On fait quelque part un peu surpris par la rupture avec les autres disques, quand survient le douloureux rappel de notre condition non humaine sous la forme d'une fléchette hypodermique avant que la jungle s'éteigne autour de nous, comme un futur souvenir. On se réveille dans un container, sur un navire qui a traversé l'océan. Les ports du conteneur ne font pas le poids face aux besoins de liberté, ni l'équipage armé, ni les gardes sur les docks, sauf peut-être une voiture lancée à pleine vitesse en traversant la rue et paf ! Et on se réveille, à nouveau dans la jungle. On fait quelques pas, et si c'était juste un rêve ? Le soulagement s'effondre au contact d'un mur invisible, un mur de verre de l'autre côté où il y a des petits humains qui semblent s'amuser du cauchemar dont je me réveille pas. Alors je brise la vitre, je suis pas un jouet, je cours dans les couloirs, je suis pas une décoration. Les rires sont devenus des cris. D'autres non-humains comme moi sont enfermés dans les cages en verre, nous ne sommes pas des attractions. Alors je les brise aussi, ils m'aident à combattre les hommes armés, nous sommes des personnes. De plus en plus nombreux, nous forçons notre chemin. Et à l'instant de balayer l'ultime barrière, il se passe un truc magnifique. C'est comme si tout le jeu avait été qu'une longue introduction, où chaque percussion d'un corps qui s'écrase nourrissait une détermination qui soudain déborde et se transforme en une explosion, une trompette qui éclate comme un cri de toute la souffrance d'avoir été privé de sa vie, une trompette qui prend la parole pour hurler ce qui pourrait être le premier article des droits des personnes sentientes. Je dois avoir la liberté. Cette musique qu'on entend, c'est « You've got to have freedom » de Pharoah Sanders. Le morceau que Gabe Kudzilo, le créateur du jeu, écoutait en boucle pendant le prototypage et qui a influencé profondément la direction artistique, musicalement, visuellement, narrativement. Et en jouant à cette fuite forcenée pour s'affranchir de la captivité et des souffrances, on peut faire un parallèle quasi décalqué avec Tyke, une éléphante de la vraie vie véritable, qui est née dans la savane du Mozambique au début des années 70. Elle est capturée alors qu'elle n'a que 2-3 ans, c'est un éléphanto, un bébé séparé de sa famille, quand elle est achetée par Circus International pour être dressée à exécuter des tours de spectacle sur des ordres. Pendant une vingtaine d'années, elle subit la torture ordinaire des animaux de cirque, et par 3 fois, elle se rebelle. En 1994, à Hawaï, pendant une énième journée, je suis toujours malmené. Il y a des jours avec, et des jours sans. Je suis hors scène, juste derrière le rideau, ça braille, il y a plein d'humains qui se marrent alors que moi je suis dans une sidération chronique. On m'invite à coups de crochet à entrer pour exécuter une fois de plus le même spectacle. Aujourd'hui, je refuse, c'est plus possible. Alors je me jette en avant, je projette au sol le Walter, je le pousse la dresseuse et je la piétine devant le public. Tout le monde crie, je tourne un peu en rond et je vois une issue qui doit mener dehors. Je percute des petits et des grands mais je m'en fous, j'arrive à sortir. Il y a une barrière, un grillage, purée, vous êtes pas prêts. Je me casse, je fonce dans le centre-ville d'Honolulu. Vous, ça vous fait flipper, mais moi c'est ouf, je sens l'air différemment, je peux aller où je veux, c'est moi qui décide et le premier qui veut me donner des ordres, je l'explose. Je fuis au petit trot pendant une trentaine de minutes, c'est trop bon, il y a des humains qui se mettent en ligne en face de moi. et je sens plein de piqûres sur mon corps juste avant d'entendre les bruits des canons. Je suis incapable de me calmer, j'ai trop mal. Alors ça recommence encore et encore, et je m'effondre sur une voiture loin de ma famille et de la brousse. Et comme dans le jeu Ape Out, on pense à la chanson « You've got to have freedom », « Tu dois avoir la liberté ». Voilà, est-ce que vous aussi, il y a des œuvres qui vous ont touché et vous vous dites que forcément, la genèse du jeu est liée au message que vous y trouvez, vous ?
Merci beaucoup, Gomilsa. C'est vraiment super bien dit. Très triste. J'avais l'impression d'y être. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et réagir, justement, pour parler d'émotions ? Raquel, on t'écoute.
Eh bien, ouais, merci beaucoup pour cette chronique. En fait, je vais faire un truc un peu bizarre, c'est que je vais réagir à l'une des chroniques qu'il y a eu avant et à celle-là et faire un peu un nœud entre les deux, si ça fait sens, où je pense que le fait qu'on est justement en train de, par nécessité et... Vu l'état de l'industrie et aussi par problème d'accessibilité, par multiplication de perspectives, on est en train de se diriger... Enfin, je suis très contente de voir qu'on est en train de se diriger vers une industrie qui permet de plus en plus de créer ces petites expériences là où si on va mettre notamment le focus sur tout ce qui va être graphisme, tout ce qui va être performance, tout ce qui va être... jeu dans le sens où on a tendance à le comprendre traditionnellement et qu'on s'éloigne un peu de ça pour justement permettre de plus en plus ce type d'expérience-là. Et je pense que c'est l'une des... parmi les très nombreux désavantages actuels de l'industrie, l'un des avantages, c'est de permettre justement, pour ce genre d'expérience, de leur donner la place d'exister d'une manière où ils n'auraient peut-être pas forcément été légitimes de poursuivre ce genre de vision par le passé.
Tu peux y aller, Tizona. Merci beaucoup, Raquel.
Oui, c'est assez intéressant comme croisement que tu fais. Tu viens de créer le multivers de nos chroniques. Ce que tu dis, ça me fait penser un petit peu à un message qu'une ancienne une ancienne collaboratrice ici, Ash, avait fait par rapport à la démocratisation, on va dire au fait qu'il y ait de plus en plus de jeux qui utilisaient une esthétique PlayStation, on va dire, ou très rétro, notamment dans le jeu d'horreur. On est éloigné de l'aspect animal et finalement pas tant que ça sur la partie de la violence et la cruauté, et qui finalement avait une position que je trouvais vraiment très intéressante, parce qu'en plus le jeu d'horreur rétro ça me passionne, qui était que sa vision, si je ne bafoue pas ça, ce qu'elle essayait de dire, c'était que la partie, cette esthétique rétro, cette esthétique finalement qui ne dit pas tout visuellement, elle était particulièrement parlante dans l'imaginaire et la violence des propos que ça pouvait nous faire imaginer, nous faire sentir. Et je trouve ça se recoupe un petit peu avec ça, et avec aussi un héritage vidéoludique qui date pas d'hier, hein. Si on pense à la NES, aux animations qui étaient très réduites, il y avait tout ce rapport à l'imaginaire et par l'économie de moyens. Mais c'est vrai que sur la partie, je vois bien le rapport au jeu d'horreur et au fait qu'il n'y a pas besoin de tout montrer, et que même la simplification des moyens peut faire en sorte que on peut plus facilement peut-être se rapprocher des intentions, de la symbolique, etc. Et je trouve que ça, je sais pas si c'est exactement ce à quoi tu pouvais penser par exemple, mais je trouve que ça rentre un petit peu dans ce type de propos.
Moi j'ai peut-être une petite réaction par rapport à ta chronique justement, Gomilsa. Tu demandais est-ce qu'il y avait un jeu qui nous avait particulièrement touché. Moi je me souviens de Firewatch, qui m'avait profondément touché par son histoire. Alors je veux pas spoiler, donc je sais pas trop comment en parler, mais j'invite en tout cas les auditeurs et les auditrices à y jouer, parce que c'est un jeu avec une très belle narration et un très bel univers aussi, avec une belle sensibilisation à plusieurs choses. Et c'est un jeu qui m'avait profondément touchée, parce que je trouve que justement les mécaniques sont conçues de sorte à ce qu'on soit un peu forcé de ressentir les émotions du personnage. Et l'histoire fait que ça peut faire écho justement à un vécu personnel, ça peut faire écho à des situations qu'on peut connaître qui sont difficiles. Et je trouve que c'est profondément psychologique et peut-être un petit peu cathartique d'une certaine façon, parce que ça nous pousse aussi à nous mettre face à une certaine réalité. Alors je suis désolée, c'est très flou et très abstrait, mais je peux pas vous spoiler l'histoire. Donc je vous invite à aller voir. Et c'est vrai que c'est un jeu qui, en plus, au fil de la narration, au fil de sa découverte, vous permet en fait de découvrir une double histoire. Donc c'est un jeu qui vraiment est conçu un peu comme une rose en fait. Vous avez plein de pétales, il y a toute une profondeur. Donc c'est un jeu qui m'avait profondément touché et j'avais mis du temps à m'en remettre. J'ai pas rejoué parce que c'était pas simple justement pour moi de l'avoir découvert, mais je trouve que c'est hyper important que d'avoir des jeux qui nous touchent comme ça. Oui, Raquel. Je t'en prie.
C'est juste un tout petit bonus à la fin parce que ça m'y a fait penser parce qu'on parlait de jeux qui nous ont touchés et tout ça, et en fait genre littéralement en lien avec cette notion de genre du décalage de perception de l'art et tout ça, moi un des jeux qui m'a le plus touché je pense c'est The Beginner's Guide, et il parle littéralement de ça, il parle littéralement de genre quel est le rapport entre le créateur, son audience, la relation du créateur et de l'audience à travers l'art, et comment est-ce que ça peut contribuer à dégrader l'un ou l'autre, ou au contraire à en créer des choses qui sont plus que la somme de ces différents morceaux. Enfin, et du coup, voilà, c'était juste... je crois que je voulais aller plus loin que ça, et après j'ai oublié, mais c'est pas grave, voilà.
Eh bien, merci beaucoup Gomeïssa pour ta chronique très touchante. Je vous propose d'enchaîner avec la première pause musicale avec Paradigm Shift, composé par Naoshi Mizuta pour l'OST de Final Fantasy XIII-2. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec notre invitée Raquel.
Alors rebonjour et re-bienvenue Raquel, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme on l'a dit, tu es narrative designer indépendante et tu as notamment bossé sur plusieurs projets comme Banishers, Ghost of New Eden ou encore le dernier jeu Avatar de Ubisoft. Et avant de commencer, je voulais d'abord te demander comment tu t'es retrouvé, toi, en fait, à faire ce métier de narrative designer et quel est ton rapport au jeu vidéo au sens large et, en fait, ton parcours. En somme, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ?
Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci encore une fois de m'accueillir. Alors, en vrai, j'ai un parcours qui est bizarrement assez simple, toute proportion gardée, mais en fait, ce qui s'est passé très simplement, c'est que quand j'avais 11-12 ans, j'aimais déjà beaucoup les jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo depuis que j'ai, je pense, 6-7 ans à peu près. J'y jouais pas énormément moi-même, mais en fait, comme beaucoup d'enfants à l'époque, c'était les amis qui avaient les consoles de jeux chez eux, et du coup, on y allait, on jouait avec eux, tout ça. Et je commençais à avoir un petit peu plus mon propre matériel. Et j'ai joué au premier Knights of the Old Republic de Star Wars, donc le premier KOTOR. Et j'ai joué à ça et en fait, à la fin, je me suis dit « Ok, je veux faire ça, globalement. » Donc ça s'est décidé assez rapidement. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que par contre, le métier de narrative designer n'existait pas à l'époque. Honnêtement, le métier de game writer existait à peine à l'époque, de manière séparée avec sa propre...
Oui, c'est un métier qui n'est pas... encore aujourd'hui difficilement définissable, en fait. Ça évolue tout le temps, quoi.
Oui, complètement. Ça, c'est le narrative design, c'est encore à part. Mais du coup, j'ai dû un peu définir. Ok, mais du coup, ça veut dire quoi de faire ça dans le jeu vidéo? Et du coup, je me suis un peu orientée vers le game design. Et du coup, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai fait des études de game design, qui est du coup ma première spécialisation. En ce qui concerne la narration, je me suis vraiment auto-formée, en fait. J'ai jamais vraiment suivi de formation spécifique pour ça. Donc j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai brièvement essayé de monter un studio, ce qui n'a rien donné, ce qui est l'expérience de pas mal de gens qui sortent d'études. Après ça, je me suis retrouvée à... je suis rentrée dans, à Ubisoft un petit peu après... pour du coup Avatar, j'ai travaillé 2 ans en Suède, à Malmö, sur le projet. Ensuite, j'en suis partie et je suis revenue en France. Et à partir de ce moment-là, je me suis dirigée vers le freelance pour un ensemble de raisons. Et dans le contexte du freelance, du coup, j'ai travaillé pour Dontnod sur le projet Banishers Ghost of New Eden et d'autres projets. Et j'ai été professeur aussi, donc professeur, bien grand mot. J'ai été intervenante dans différentes écoles sur le sujet du narrative design, du game writing et aussi du game design à l'occasion. Et là, ça fait, je crois, 5 ans maintenant que je suis freelance et du coup, je travaille avec un ensemble de clients, avec des projets de taille qui peuvent être très larges du coup. Donc voilà, le plus gros que j'ai fait, c'est Ubisoft. Ou ça peut être très petit. Le plus petit que j'ai fait, c'est littéralement une ou deux personnes. En général, les projets avec qui je travaille vont être, on va dire, une dizaine de personnes, je pense, en ce moment. Et du coup, autre jeu notable, je sais pas, mais sur lesquels j'ai pu travailler, c'était Last Time I Saw You, qui est un jeu qui est sorti... il y a 2 ans, je crois, car le temps passe trop vite. Et là, j'ai aussi travaillé sur pas mal d'autres jeux qui devraient sortir relativement bientôt, mais je ne sais pas exactement
D'accord.
quand. Voilà, ouais. Donc c'est ça mon parcours.
Super, merci. Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et que tu nous parles un peu plus en détail de ton métier, est-ce que tu pourrais essayer, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais... pour nous, en fait, qui sommes ici autour de nos micros, et pour nos auditeurs, essayer d'expliquer un peu ce que c'est que le narrative design et surtout, c'est quoi la différence entre narrative design et l'écriture d'un scénario ou de dialogue, par exemple. Voilà, est-ce que tu serais capable d'essayer de nous expliquer un peu ça?
Oui, je serais capable car tous les entretiens d'embauche posent cette question.
Oui, c'est vrai.
C'est la première question qu'on pose.
J'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai.
C'est pas forcément instinctif, mais c'est un fun fact. Tous les entretiens d'embauche de narrative design démarrent par cette question. Donc la manière dont moi je le qualifierais, c'est vraiment en gros comprendre ce qui, en gros, utiliser l'interaction et prendre l'interaction et la mettre au service de la narration, ou inversement comprendre comment la narration peut venir enrichir des systèmes interactifs de jeu. Donc c'est vraiment essayer de trouver comment mettre des mécanismes ludiques au service de raconter une histoire qui va être impactante selon les critères qu'on va lui attribuer. Donc c'est vraiment essayer d'aligner les intentions du projet à ce niveau-là, avant toute chose. Mais c'est un truc important à comprendre. Enfin, la différence justement avec tout ce qui va être plus game writing, c'est que le narrative design, c'est une sous-spécialisation du game design, avant toute chose. C'est vraiment l'application du game design à la narration. Là où le game writing, ça va être beaucoup plus, bon, évidemment il y a toujours des collaborations, c'est difficile de bien définir les rôles dans un jeu vidéo, mais le game writing ça va être plus l'écriture des dialogues, on va faire une outline, on va écrire des barks, on va écrire les descriptors des items, des trucs comme ça. Enfin, voilà,
les barks, ça va être... Attends, juste les barks,
oui, pardon.
C'est ce que disent les PNJ par exemple, tu peux nous expliquer.
C'est ça, c'est par exemple quand on les bouscule et ils font « Ah mais faites attention,
voilà.
Ça doit être le vent, enfin, c'est ça les barks, okay. Voilà. »
Et juste avant, tu parlais du fait que c'était KOTOR, donc Knights of the Old Republic, qui t'a un peu fait te rendre compte quand t'étais enfant que c'était ce que tu voulais faire plus tard. Et moi, ça a un peu résonné avec moi quand t'as dit ça, parce que moi, ça m'a fait penser quand j'étais ado et que j'avais joué à Morrowind pour la première fois. Ça m'avait un peu, subjugué aussi de voir tout ce qui était possible de faire. Et c'est encore un peu différent de KOTOR, Morrowind, parce que c'est comment dire, une forme, on se fait un peu sa propre histoire quand on joue à Elder Scrolls, quoi. C'est un peu, y a un côté un peu RP. Et du coup, moi, je voulais aussi parler de narrative design avec toi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, parce que j'ai envie d'essayer. Peut-être pas professionnellement, juste comme ça, sous forme de hobby, m'essayer un peu à l'écriture pour le jeu vidéo, parce que ça fait des dizaines d'années que je consomme du jeu vidéo et j'avoue qu'à un moment donné, ma curiosité me pousse à vouloir moi aussi essayer de voir comment tout ça se fait en coulisses. Donc, c'est pas une question simple, vu le contexte actuel de l'industrie du jeu vidéo, mais qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil, au pluriel, à une personne qui voudrait s'essayer justement à l'écriture pour les jeux vidéo ? Que ce soit professionnellement ou juste comme ça, pour voir comment ça marche.
Je pense qu'il y a deux facettes à cette question. Enfin, déjà, cool, et franchement, si ça t'intéresse, même au-delà de... Enfin, même sans avoir genre le comment dire, l'approbation de l'industrie, n'hésite pas à juste lancer, essayer des trucs, honnêtement, voilà, genre,
oui, j'ai téléchargé des petits logiciels Inkle et Twine expérimenter un peu.
C'est une très bonne manière de démarrer. Donc il y a une part de la question qui est comment aborder la question en termes de pratique et de genre s'entraîner, de développer ou sa plume ou son regard d'un point de vue de design, qui est quelque chose sur lequel je vais peut-être pouvoir plus aider. Et il y a l'autre partie qui est comment rentrer dans l'industrie concrètement, qui là c'est plus nébuleux, enfin genre j'ai peut-être des conseils mais ça reste un peu c'est difficile de pouvoir complètement donner quelque chose de vraiment très très clair à ce niveau-là. Mais d'un point de vue de pratique, je pense que mon premier conseil et le conseil le plus spécifique que j'ai, c'est de s'essayer au plus de médiums possible. Si ça nous intéresse, évidemment. Mais en fait, je pense que l'un des pièges, quand on dit « Ah, je veux travailler dans le jeu vidéo et je veux écrire pour le jeu vidéo », ça va être d'essayer d'écrire comme du jeu vidéo ou pour le jeu vidéo, ou spécifiquement genre s'entraîner à l'interaction. Et genre, c'est important complètement de comprendre les causes et conséquences, de genre ça veut dire quoi, de créer un système de choix, c'est quoi, à partir de quel moment est-ce que ça vaut plus le coup de proposer des options aux joueurs et d'apprendre, évidemment il faut aussi faire ça, mais je pense que un skill qui est vachement utile dans le narrative design en particulier, c'est de comprendre avec quelle palette émotionnelle on travaille sur un projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un projet va être le plus capable de faire et quelle émotion il va être capable de mieux produire. Par exemple, je sais pas, si on est sur un shooter première personne, peut-être qu'on va avoir une nervosité, un sens de la réactivité, un stress avec lequel on va pouvoir travailler pour faire certaines choses. Et si on veut faire quelque chose d'extrêmement contemplatif ou introspectif, quoi que ce soit, je dis pas que c'est pas possible de le faire, je pense que c'est complètement possible de le faire, mais on va peut-être devoir chercher plus loin pour accéder à ces émotions-là. Et je pense que du coup, essayer d'écrire, des textes, des nouvelles ou des poésies, de la poésie pour le théâtre, pour des films, pour, même genre faire de la musique, enfin n'importe quoi en fait, d'autres formes de narration qui utilisent leur propre code, ça permet, je pense, de développer cette sensibilité-là le plus efficacement possible, parce qu'après, du coup, sur un jeu vidéo, tous les projets vont être différents et vont pas avoir accès aux mêmes outils, et du coup, on va plus facilement être capable d'identifier qu'est-ce qu'un projet va la direction vers laquelle un projet a envie d'aller, juste par la nature de ce qu'il est, quelque part.
Oui, je vois. Ok. Et peut-être que pour expliquer les choses de façon un peu plus concrète, est-ce que toi, par exemple, tu as qu'est-ce que tu dans ton activité de narrative designer, qu'est-ce que tu préfères en fait? Est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a une étape ou quelque chose ou un projet qui t'a vraiment marqué et que auquel tu tiens vraiment beaucoup? Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas si ma question est claire en fait, je me rends pas bien compte, mais c'est quoi ce que tu préfères en fait dans ton métier, voilà,
Non,
tout
non,
simplement.
bah, y a pas de souci, la question est claire. Honnêtement, moi je pense que ce que j'aime, enfin il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup, il y en a qui sont plus ou moins faciles à obtenir sur un projet, il y a des projets où juste malheureusement des fois la sauce ne prend pas autant qu'on voudrait, mais je pense que les deux choses que j'aime beaucoup c'est un peu prototyper en fait quelque part, genre justement avoir la possibilité de directement travailler le médium et de pouvoir faire des tests et de voir si les tests sont concluants ou pas, et idéalement quand on fait ça, dans une bonne synergie avec le reste de l'équipe et que tout le monde peut contribuer, que tout le monde est en train d'ajouter des petites choses pour que le projet devienne de plus en plus riche et de plus en plus intéressant. Quand ça arrive, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on fait des jeux, quoi, quelque part. Donc, je pense que c'est cette combinaison-là, mais notamment, ouais, le fait, enfin, quand il y a une possibilité que l'équipe narrative soit directement impliquée dans la création concrète de genre littéralement on met des blocs dans le moteur de jeu ou enfin des blocs ou des textes ou des trucs quoi, parce que malheureusement dans beaucoup de jeux on se retrouve à avoir encore des équipes très séparées où la narration va être un petit peu punie dans son coin, enfin pas punie dans son coin mais bon on va pas forcément être autant en interaction avec le matériel que ce qui je pense est idéal peut-être
Oui, c'est sûr que ça peut être compliqué de ne voir que le résultat final, en fait, et de pas.
et puis c'est moins efficace
Oui, c'est sûr, oui.
fatalement.
Oui, clairement. Mais tout va dépendre de la façon, j'allais dire, de la façon dont travaillent les studios et d'un point de vue technique aussi, les moteurs des jeux. Je pense qu'il y a aussi des contraintes techniques qui font que parfois c'est pas aussi facile, quoi.
C'est ça, et aussi selon les choix de production qui ont été faits, parce que bah, rendre un projet accessible à la narration, c'est un choix, bah c'est un certain choix qu'on fait au moment où on organise la logique de code du projet, et il y a des projets qui vont se dire que ça vaut le coup de le faire, il y a des projets qui vont se dire que ça vaut pas le coup de le faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la narration qui sont pas forcément super à l'aise avec la technique, ce qui, je pense, est un peu triste parce que, enfin, je comprends, hein, j'ai été cette personne, mais je pense que c'est important de pas avoir peur de. Au moins de la base, ne serait-ce que pour mieux communiquer avec les autres, histoire qu'on ne parle pas de choses complètement différentes. Mais
Bien sûr.
du coup, oui, ça peut être une contrainte assez importante.
Oui, bien sûr. Et là, justement, tu as parlé de localisation et ça me fait penser à une actualité récente. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais il y avait un traducteur, je crois, de Warhorse Studio, les développeurs de Kingdom Come Deliverance, qui apparemment a été licencié. Donc c'était la personne qui était en charge de faire la localisation du en anglais, quoi. Il traduisait le jeu en anglais. Et il aurait été remplacé par l'intelligence artificielle. Et bon, évidemment, c'est le sujet dont on parle tout le temps en ce moment et on en a un peu marre. Mais moi, ça m'a questionné, en fait, c'était au-delà du fait que ça va forcément dégrader la localisation. Qu'est-ce que les scénaristes, narrative designers et toutes les personnes qui s'occupent de l'écriture vont penser? Parce que c'est impossible que ça n'impacte pas la qualité de leur écriture. Et je voulais savoir ce que toi tu pensais de ça. Est-ce que ça va pas déformer le message,
Oui,
voire
enfin,
le détruire
bon,
totalement?
la réalité, c'est que je crois que je connais personne qui travaille dans la narration, spécifiquement dans le jeu vidéo, qui a quoi que ce soit de positif à dire sur
Oui.
l'implémentation de l'IA
Non, c'est sûr.
dans
Mais c'était juste
ce
en fait
système-là.
c'est pour montrer que même si ça touche pas directement la narration, à travers la localisation, ça peut aussi dégrader, enfin,
Ah oui,
impacter
complètement.
la
Et
narration, quoi.
bah complètement, et puis en plus au-delà même, enfin il y a effectivement genre la qualité et le respect de bah justement de l'intention qui avait été posée et tout ça, qui est forcément perdu avec le temps. Mais même au-delà de ça, il y a aussi une question de respect et des conditions de travail de tout le monde, ce qui comprend aussi la localisation. Et honnêtement, une équipe qui est moins stressée, c'est une équipe qui va faire du meilleur travail. Et je pense qu'il y
Oui.
a aussi ça comme argument.
Oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des nouvelles façons de raconter des histoires dans les jeux vidéo qui n'ont pas encore été découvertes ou testées et que est-ce que tout ça c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis, tu as des réflexions là-dessus? Sur des nouvelles façons de raconter des histoires dans les jeux?
Alors, je suis sûre qu'il y en a. Je suis persuadée qu'il y en a. Je suis persuadée qu'on n'a même pas... Enfin, qu'on va continuer à en découvrir des nouvelles. Après, pour être très honnête, je ne sais pas si j'y pense de cette manière-là. Dans le sens où je pense que si jamais je tombe sur un projet qui nécessite... genre qui demande, qui exige qu'on approche la manière dont on raconte une histoire d'une nouvelle façon, ça serait un plaisir et ça serait super d'être un peu pionnier là-dedans et de trouver des nouvelles règles, des nouveaux codes, tout ça. Mais je pense que c'est un peu... Enfin, en gros, chercher l'innovation un peu... au préalable, sans même savoir au service de quoi on va la mettre, ça peut être, je pense, un peu un piège du narrative design dans certains moments où genre on essaye un peu de réinventer la roue là où peut-être que c'est pas forcément le projet pour le faire. Donc je suis sûre que c'est vrai, je suis sûre qu'on va s'émerveiller de plein de nouvelles manières de raconter des histoires et d'être touché et d'aborder plein d'expériences humaines auxquelles on n'aurait même pas pensé de façon super intéressante. Et je pense que ça va être une surprise à chaque fois et je pense que c'est super. Et ça va venir des projets, je pense, plutôt que l'inverse, si ça fait sens.
Ouais. On approche presque de la fin de notre discussion, mais avant ça, je voulais te poser une question par rapport à un texte que tu as écrit dans un bouquin qui est sorti récemment. Donc, c'est le Game Narrative Kaleidoscope qui a été publié par Inkle, tu me dis si je me trompe, hein, non, dans lequel il y a eu une centaine d'essais de narrative designer, game writer qui a été compilé. Et toi, tu as écrit justement dans cette logique de lien entre narration et les mécaniques de jeu. Oui, c'est ça. Tu as parlé des systèmes de, on va dire, comment je pourrais appeler ça, les systèmes de commerce, d'échange et de monnaie dans les jeux. Je parle pas de monnaie virtuelle, hein, je parle vraiment de, par exemple, le fait d'aller acheter des potions et des pièces d'or dans un magasin, par exemple, dans un jeu. Et du coup, j'ai lu ton petit essai et je trouvais ça super intéressant. Et notamment, quand tu parles de l'exemple de Silksong avec, comment ça s'appelle encore, la monnaie dans Silksong des...
Je sais en anglais, rosaries.
Oui, les pierres de...
Ouais.
Bref. Oui, le nom français m'échappe aussi. Il y a une symbolique dans la monnaie et je voulais que tu nous dises un peu, que tu nous parles un peu de ce pourquoi tu as choisi cette réflexion-là, juste particulièrement sur le commerce et la monnaie dans les jeux, parce que moi, je trouvais ça super intéressant et ça m'a fait penser aux capsules de Fallout, les âmes dans Dark Souls. Et clairement, on voit toute la symbolique et tous les thèmes qu'on veut faire passer à travers, en fait, ce qui est juste une mécanique de jeu, quoi.
Déjà, merci beaucoup de l'avoir lu. C'est super. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, honnêtement, je suis juste, pour une raison obscure, non, c'est pas forcément si obscure que ça, elle est juste peut-être trop compliquée pour le temps qu'on a, mais j'ai toujours été très intéressée par la manière dont l'économie, le commerce, les échanges s'est perçu comme quelque chose de très, quelque part déshumanisé, quelque chose de très logique, de très... comment dire, solide, avec une logique qui va s'appliquer dans tous les cas et machin et tout ça. Et en fait, je pense que c'est un peu ironique parce que, avant toute chose, c'est une manière pour les gens de communiquer entre eux. Et je pense que dans les jeux vidéo, c'est encore. Enfin, ça occupe exactement ce même espace où, à la fois, c'est d'abord un outil pour le game design et pour la. Comment dire, pour tout ce qui va être équilibrage et tout ça, d'essayer de guider l'expérience du joueur. C'est avant tout à ça que ça sert, l'économie. En plus, évidemment, de l'aspect simulation, t'as l'impression d'être dans dans la vraie vie et où t'achètes tes trucs et machin. Mais je pense qu'il y a vraiment toute une dimension de qu'est-ce qui va être valorisé, qu'est-ce qui va être dévalorisé, et quelles sont déjà toutes les options qu'on a pour raconter des choses sur le monde, sur les personnages, sur le cœur de ce qui compte pour le jeu, via les échanges. Il y a la difficulté d'obtenir certaines choses et tout ça, mais en plus, je pense que ça peut dire des choses sur... sur les dynamiques de pouvoir de ce monde en particulier, et aussi de notre propre rapport à l'argent, notre propre rapport à l'accumulation, ou au contraire, comment est-ce qu'on peut potentiellement questionner ça, apporter de nouvelles options. Enfin, vu qu'un jeu vidéo, c'est avant tout la simulation d'un système, ça permet énormément de choses, en fait, et ça permet de faire plein de tests et de voir ce que ça peut donner. Évidemment, c'est des systèmes qui sont très simplifiés, c'est absolument pas applicable à une vraie échelle, mais je pense que c'est une porte de réflexion qui est très intéressante.
Tu parlais notamment du jeu de Pathologique, où les prix des objets, ils explosaient pendant certains événements, je crois, dans le jeu, ça. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bah c'est ça. C'est juste qu'à un moment, il y a l'inflation qui se met, qui devient une autre mécanique qui rend,
ça,
bah, qui fait partie.
Je trouve que c'est assez rare qu'il y ait ce genre de système dans un jeu.
Bah complètement. Et je trouve que c'est dommage parce que il y a tellement de choses qui peuvent être dites et tellement de. Enfin, je pense que très souvent, on a tendance à beaucoup penser au jeu, genre à la narration via des émotions qui vont être très très humaine quelque part, ça va être très le deuil, l'attachement, le machin, la victoire, la défaite, et c'est bien, mais je pense que on a aussi tout un boulevard pour parler des émotions plus complexes de comment on réagit face à un système qui nous dépasse, et il y a peu de jeux qui osent complètement aller là-dedans, et je trouve ça j'ai l'impression qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à en faire, et c'est pour ça que je suis curieuse de ça et des jeux qui réfléchissent.
Ok, je vois, très bien. Bah écoute, je te remercie pour toutes ces réponses très précises et très claires, c'était super intéressant. Mais on se retrouve pour la seconde partie de l'entretien après la pause musicale. Nous allons écouter The Spine, composé par Darren Korb et interprété par Ashley Barrett pour l'OST de Transistor. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Raquel pour la suite de l'entretien. Alors, avant de continuer cet entretien, est-ce que Raquel, tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau The Spine de Transistor ?
Honnêtement, c'est parce que j'associe... l'OST Transistor, en général, c'est un morceau que j'associe beaucoup à... ça fait partie des OST qui tournent quand j'ai tendance à travailler en général. Et ce morceau en particulier, j'associe vraiment beaucoup au moment où j'ai démarré, où j'étais dans mes études et tout ça. Et du coup, je sais pas, dans ma tête, il y a un lien fort entre les deux. Et ça rentrait dans les critères de ce qui avait été demandé pour l'émission, et voilà, j'aime beaucoup ce morceau.
Oui, c'est une réponse tout à fait, tout à fait légitime, hein, et qui fait sens. Est-ce que quelqu'un avait une remarque ou une question ou juste voilà, une intervention, quelle qu'elle soit, par rapport au narrative design ou au parcours de Raquel ?
Bon, alors justement, pas spécialement par rapport au parcours ou au narrative design, enfin si, mais du coup, en lien avec du coup, le travail sur les monnaies, je trouvais que c'était marrant, du coup, voilà, c'est cette idée que, comme tu disais, que certaines personnes pouvaient penser que la question de l'argent, ça pouvait être un peu quelque chose de stérile, narrativement parlant, et pourtant, moi, justement, j'avais un exemple qui m'a vachement marqué, c'était dans Ghost of a Tale, il y a un moment donné où, enfin, c'est un univers que j'aimerais vraiment pouvoir explorer davantage en tant que joueur-joueuse, et parce qu'il a l'air d'être trop jeune. Enfin, je trouve qu'il est bien peint par petites touches où tu dis, on est bloqué dans ces 500 mètres de rayon et j'aimerais tellement aller loin ailleurs. Et notamment, du coup, il y a un peuple, le peuple des Pies. Et c'est marrant parce que je crois qu'à un moment donné, elle nous propose de l'aide, ou je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, on interagit avec une pie, donc on est hyper impressionné. Et en fait, elle nous propose de nous aider, mais seulement en échange d'informations, de connaissances. Et du coup, on comprend plus ou moins que c'est vraiment juste ça, la façon de troquer des trucs avec cet autre peuple, c'est... il faut que je te dise quelque chose que tu ne sais pas, quoi. Sinon, je ne pourrais pas avoir ce dont j'ai besoin de ta part, quoi. Et ça va de bidule et parti à telle heure jusqu'à des connaissances un peu plus, on va dire, je sais pas, scientifiques. Est-ce que vous savez que telle poudre fait tel truc ? Et c'est la seule façon de pouvoir négocier avec la pie, c'est de l'information. Et je trouve que c'était chouette. Je trouvais ça vachement charmant comme monnaie d'échange. Et du coup, de ce que ça disait, forcément, sur ce peuple-là, quoi.
Alors j'avoue que c'est pas un jeu avec lequel je suis familière personnellement, mais un autre élément je pense qui est très intéressant dans justement le rapport de justement à la monaie et enfin à la monnaie, peu importe la forme qu'on lui donne, c'est qu'il y a partiellement une notion effectivement de genre qu'est-ce qu'on dit sur le world building, qu'est-ce qu'on dit sur un peuple, qu'est-ce qu'on dit sur les priorités d'un personnage, ce genre de choses. Mais il y a aussi autre chose qui est très intéressante, c'est quel comportement est-ce que ça va encourager chez le joueur, parce que l'un des risques, je trouve, quasiment systématique quand on introduit de l'argent, des dollars, de l'or, des crédits, n'importe quoi, c'est que très souvent on va enclencher une logique dans le cerveau des joueurs qui va être une logique d'optimisation, qui va être une logique de comment est-ce que je peux avoir le maximum de choses avec le minimum d'efforts. Et des fois, c'est ce qu'on veut, des fois, c'est pas toujours négatif comme réflexe à développer chez le joueur, mais c'est vrai que quand on commence à sortir de ces logiques de monnaie d'échange un peu plus classiques et qu'on commence à rentrer, par exemple, dans l'information ou dans des collectibles particuliers ou n'importe quoi, ou des services ou ce genre de choses, on commence aussi à, en gros, sortir d'une logique de... Enfin, après, je ne sais pas comment ça marche dans le jeu spécifiquement, mais on peut sortir d'une logique de collecte pure, de genre, ou alors de production, et après, on récupère des choses qu'on va pouvoir échanger contre plus de production, etc. On se sort un peu de cette logique-là, et on encourage d'autres types de comportements chez le joueur, qui vont peut-être avoir moins à voir avec l'optimisation, et peut-être plus avec de la curiosité, avec de la découverte, avec de l'entretien, avec des loops un petit peu plus... des game loop de care un petit peu plus. Enfin, il y a plus d'options qui s'ouvrent, on va dire, et c'est pas que l'une est nécessairement meilleure que l'autre, mais je pense que c'est aussi un autre levier avec lequel on peut cultiver une certaine expérience de jeu, on va dire.
Quelqu'un d'autre avait... Oui, Tizana ?
Je n'ai pas encore lu ce recueil, et donc peut-être que tu en parles, et peut-être que c'est une banalité, mais je trouve ça intéressant que tu parles du système de monnaie et que tu aies autant de passion par rapport à le poids que ça peut avoir dans la narration, quand on sait que historiquement les premières traces de l'écriture c'était lié à des transactions budgétaires, à te dire que finalement l'un dans l'autre, en fait il y a toujours eu un rapport très, très, très fort entre les deux.
Complètement. Et alors malheureusement, j'avais tellement de choses à dire dans cet essai, mais on n'avait pas le droit de faire plus de 1000 mots, et 1000 mots sur ce sujet, c'est vraiment
c'est
pas
court,
beaucoup.
C'est court.
donc j'ai un peu coupé comme j'ai pu, mais oui, il y a vraiment tellement, tellement, tellement de choses à dire, je trouve, sur le rapport entre les deux, et c'est pas... Enfin, et parce que c'est considéré comme quelque chose d'aussi, j'ai pas envie de dire scientifique, mais presque, enfin, émotionnellement, c'est associé à ça, on va dire. Du coup, c'est peu considéré de manière plus sensible, entre guillemets, je trouve, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est un angle qui n'est pas inintéressant, surtout quand on voit la place que prend l'économie dans notre monde actuel.
Merci beaucoup Maxime et Raquel pour cet entretien passionnant. Et puisqu'on est dans les émotions, je vous propose d'écouter ma chronique qui porte justement sur le rapport des fans aux œuvres. Donc je vous parle souvent des fans comme des joueurs passionnés, créatifs, investis. Des joueurs qui prolongent les univers, qui créent, qui imaginent, qui partagent. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une autre facette de cette relation. Parce qu'être fan, ce n'est pas seulement aimer, c'est aussi réagir et c'est parfois contester. En recherche, on sait depuis longtemps que les publics ne sont pas passifs. On a des chercheurs comme Stuart Hall ou encore Henry Jenkins qui ont montré qu'on peut interpréter une œuvre, négocier avec elle, mais aussi s'y opposer. Et dans le jeu vidéo, ces formes de contestation sont de plus en plus visibles. Alors concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple, Helldivers 2. En 2024, Sony annonce que les joueurs PC devront créer un compte PlayStation Network pour continuer à jouer. Une décision qui pose problème, notamment dans certains pays où ce service n'est pas accessible. Très vite, la réaction est massive. On a des dizaines de milliers d'avis négatifs qui apparaissent sur Steam. Les joueurs s'organisent, se mobilisent et rendent leur mécontentement visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs. Et fait assez rare, Sony finit par faire marche arrière sous la pression des fans. Ici, les fans ne se contentent pas d'exprimer un avis. Ils participent à infléchir une décision industrielle. Un autre exemple, celui d'Overwatch 2. Pendant des années, Blizzard promet un mode PvE ambitieux, très attendu par la communauté. Les attentes montent encore et encore, mais le projet est abandonné. À la sortie du jeu sur Steam, les évaluations négatives s'accumulent. Une partie des joueurs exprime un sentiment de déception, voire de perte de confiance. Ici, ce qui est contesté, ce n'est pas seulement le jeu, mais c'est l'écart entre ce qui a été annoncé et ce qui est finalement proposé. Les fans sont déçus. Les attentes ne sont pas respectées. Et parfois, ces tensions s'inscrivent dans quelque chose d'encore plus fort. Les fameuses attentes liées à une licence. Alors, on peut penser à Star Wars Battlefront 2. À sa sortie, le jeu est vivement critiqué pour son système de progression qui est lié à des microtransactions, mais aussi parce que tout simplement, il concerne et s'attaque à un univers de fans. On a des personnages emblématiques comme Dark Vador qui vont nécessiter des dizaines d'heures de jeu ou encore des paiements pour être débloqués. La réaction est immédiate, les critiques se multiplient, les débats explosent et un message officiel d'Electronic Arts devient le plus disliké de l'histoire de Reddit. Je vous invite à aller regarder ça. Face à cette pression, l'éditeur revoit complètement son système. Ici, les fans ne réagissent pas seulement à un jeu, ils réagissent à ce que représente une licence. Parce qu'au fond, être fan, ce n'est pas seulement une relation neutre, c'est une relation émotionnelle, construite dans le temps, dans l'identité. Les joueurs grandissent avec ces univers, ils s'y attachent, ils s'y reconnaissent. Et avec le temps, ils développent ce que certains chercheurs et certaines chercheuses appellent un sentiment de propriété symbolique. C'est un peu comme si l'œuvre leur appartenait. Bien qu'elle ne leur appartienne pas juridiquement, elle compte suffisamment pour qu'elle puisse susciter des attentes fortes. Et c'est justement là que la tension apparaît. Entre d'un côté des créateurs et des entreprises qui prennent des décisions artistiques ou économiques, et de l'autre, des communautés qui s'approprient les œuvres, qui les interprètent, qui développent leurs propres attentes, qui y projettent leur propre vécu. Dans cet espace, les fans ne sont plus seulement des spectateurs, ils deviennent des acteurs capables d'influencer les discussions, et parfois même les décisions. Mais cette capacité d'action pose aussi une question. Parce qu'entre critique légitime et pression collective, entre engagement et débordement, la frontière est parfois mince. Alors au fond, je vous pose une question, chers auditeurs, chères auditrices. Quand on aime une œuvre, qu'on s'y attache, qu'on veut la défendre, où est la limite entre la faire vivre et vouloir finalement décider à sa place? Est-ce que quelqu'un veut réagir?
C'est un sujet qui est extrêmement intéressant et c'est un sujet qui est complexe même de l'intérieur, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, les gens qui écrivent les jeux vidéo font très souvent partie de la première ligne des critiques, et ce qui est compréhensible quelque part, je pense. Et je veux juste mettre la nuance, parce que j'ai l'impression que très souvent dans le discours, on va avoir tendance à opposer les personnes qui sont, enfin les développeurs, les personnes qui écrivent et tout ça, avec les fans, potentiellement les fans énervés ou les fans impliqués, tout ça. Et la réalité est plus compliquée que ça, parce qu'on peut avoir... on peut avoir, enfin déjà on peut être fan, je le conseille vraiment pas, mais on peut être fan du travail qu'on, de la licence sur laquelle on est. C'est une très mauvaise idée en pratique, mais il y a des gens qui le sont. Mais rien que le fait que en pratique il faut avoir suffisamment de détachement pour être professionnel, mais du coup ça fait qu'on va forcément être moins investi que les plus investis des fans, et rien que ça c'est une source de tension, et je sais pas comment on l'a réglé, enfin elle est vraiment très compliquée. Mais au-delà de ça, voilà, il est très possible aussi d'avoir complètement conscience de genre la violence d'un backlash tout en étant investi dans un autre mécontentement ou genre de choses. Enfin, il y a une pluralité du côté de l'audience, mais il y a aussi une pluralité du côté des créateurs, sans parler aussi de l'énorme frustration que je pense que beaucoup de gens qui ont travaillé sur des jeux ont pu vivre, et qui est voir des problèmes venir, voir des choses arriver, se battre contre en interne, pas pouvoir en parler nécessairement, et après en plus se manger le backlash des fans, et ça c'est hyper fréquent comme situation, et voilà, et comment est-ce qu'on navigue ça, comment est-ce que, parce qu'on va toujours avoir un rapport plus particulier à ce qu'on a fait, et nuancé, et complexe, parce que aussi des fois on voit que ce qui est sorti, non, c'est vraiment pas idéal, mais ce qui a failli sortir était 20 fois pire, et personne ne le saura jamais. Enfin voilà, il y a beaucoup de tensions à gérer, mais voilà, mais je pense qu'il n'y a pas une réalité aussi claire que la légitimité ou l'illégitimité à ne pas être content de certaines directions que prennent les choses, versus genre le respect envers une œuvre et envers la direction qu'elle prend peut exister aussi parfois dans le fait, évidemment respectueusement, mais genre de critiquer certaines directions qui sont pas prises. Enfin, genre ça peut être aussi du feedback qui est très précieux et qui est entendable, parce que genre notamment, oui, il y a la violence des joueurs qui vont s'opposer à tout ce qui va être plus de diversité et plus de machin dans leur jeu. On a vu ça, on a vu la violence que ça peut avoir, mais l'inverse existe aussi, et du coup qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est vraiment... voilà, il y a vraiment plein de facettes à ce sujet, et du coup, oui, très intéressant et très curieuse de toute cette recherche, en tout cas.
Et Calypso, je vois que tu avais aussi quelque chose à nous dire.
Ça fait beaucoup écho à des choses que j'ai pu lire et étudier, parce que j'avais fait mon premier mémoire de recherche sur le transmédia et la notion de fan, donc je te rejoins aussi oui. Beaucoup là-dessus. Et moi, à l'époque, j'avais étudié du coup l'univers d'Ankama.
Ah, génial. Donc,
pareil aussi, aussi une autre grosse, un autre gros morceau en tout cas, avec des fans parfois énervés et aussi très impliqués. Mais ouais, c'est clair que c'est un sujet qui est hyper hyper complexe, parce que comme ça touche à l'industrie, forcément d'un côté tu vas avoir les gens, enfin les du côté créateur et créatrice qui veulent faire plaisir aux fans, parce que ça va être des consommateurs, et du coup c'est une source d'argent non négligeable, donc il y a forcément cet aspect là à prendre en compte. Mais je pense que aussi en tant que fan, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ouais, effectivement il faut pouvoir réussir à prendre un peu de distance et se rappeler que l'œuvre, elle existe certes, je pense à partir d'un certain moment l'œuvre elle existe aussi grâce aux fans, pour plein de raisons, toujours forcément un peu financières, mais voilà, il y a aussi des fois des feedbacks, des fanfictions qui vont sortir, des fanarts, plein de productions en fait de fans qui vont peut-être influencer le cours de l'univers transmédiatique, et c'est super, mais il faut aussi se rappeler que les créateurs et créatrices avait peut-être aussi prévu certaines choses, et que non, effectivement, comme tu le disais, c'est pas forcément parce qu'on a acheté telle ou telle œuvre qu'on a un droit de regard dessus après coup, et qu'on va essayer de pouvoir l'influencer. Alors des fois ça peut être chouette, comme tu parlais d'Overwatch, et je me reconnais dedans aussi, parce que j'ai joué à la première version d'Overwatch, et quand effectivement on n'a pas eu le fameux PVE, j'étais pas très contente. Et j'avais arrêté aussi quand on a commencé avec Overwatch 2. Voilà, il y avait tellement de choses qui avaient changé, et puis tout l'aspect aussi financier. Mais là, voilà, ça c'est encore différent, parce que t'as acheté un jeu et d'un coup on te change tout le modèle économique. C'est normal que tu viennes râler et que tu protestes. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux où c'est OK de protester en tant que fan, Même par exemple, bah voilà, quand on sait que un certain personnage, alors là c'était plus pour le côté des salariés chez Blizzard de l'équipe d'Overwatch, mais voilà, il y avait une des personnes qui avait, enfin une personne qui avait travaillé sur le jeu, qui était, il me semble, auteur de VSS, bah du coup ils ont changé son nom dans le jeu, mais enfin voilà, il y a des choses comme ça où effectivement c'est légitime, c'est plus que légitime de se faire entendre, mais je pense qu'effectivement quand t'es fan, faut aussi bah pas oublier que tu fais partie d'un univers qui bah voilà, qui vit et tu fais aussi partie du fait que cet univers évolue, et c'est très bien, mais aussi que bah, de l'autre côté, il y a les créateurs et les créatrices qui prévoient aussi des choses, et bah, faut le laisser aussi vivre comme ça, parce que bah, sinon, je pense que ça avance, enfin, ça peut pas évoluer en fonction de la vie uniquement des fans, parce que tout le monde sera pas forcément d'accord, quoi. Mais c'est vraiment un sujet vraiment très très passionnant, de voir comment les fans sont capables, enfin jusqu'où ils sont capables d'aller en fait, en termes de production, enfin vraiment dans, ou même essayer d'aller creuser justement des choses pour se renseigner sur bah, des petits éléments quand on est sur un gros univers transmédia qui existe depuis longtemps. C'est je trouve ça vraiment passionnant comme sujet.
Oh bah si tout le monde a pu intervenir, je passe à la suite. Je vous propose de passer à la discussion de fin d'émission qui porte sur l'écriture de la série Mass Effect.
Dans un article daté du 4 avril dernier, IGN revient sur les propos que Peter Friedlander, chef du département télé chez Amazon MGM Studios, a tenus concernant l'adaptation en série télé de la licence Mass Effect. Pour contextualiser un peu les choses, Peter Friedlander aurait décidé de passer en revue tous les projets en cours pour Amazon Prime, ce qui expliquerait que nombre de ces derniers aient partiellement disparu des radars depuis 6 mois, le temps que Friedlander y appose son sceau. Et la série Mass Effect fait donc partie des projets qui nécessiteraient une réécriture afin, selon le monsieur, d'être, entre guillemets, plus attrayant pour les non-joueurs et joueuses. On connaît aujourd'hui l'appétence d'Amazon MGM Studios pour les adaptations de licences et celles venant du monde du jeu vidéo en particulier. Nous avons eu le droit à Fallout, salué par la critique et le public, et la série Tomb Raider, dont le tournage est en cours. Mais du coup, qu'est-ce qui a bien pu faire que le script de la série Mass Effect soit trop tourné vers les « gamers » entre guillemets ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire « pas assez attrayant pour les non-joueurs et joueuses » ? On sait que les jeux dits casual sont ceux dont la difficulté et le gameplay ne représentent pas un frein. Des jeux faits pour toucher un public de non-joueurs et joueuses, justement. Mais une série n'a pas de gameplay. Ce serait un peu comme dire que HBO avait demandé une réécriture de Game of Thrones pour que la série soit plus attrayante pour les non-lecteurs et lectrices. Ou alors, en disant cela, M. Friedlander voulait dire celles et ceux qui n'ont pas joué à Mass Effect. Mais la série est déjà censée prendre place longtemps après les aventures de Shepard et l'attaque des Moissonneurs. Du coup, dans l'idée, ne pas connaître la trilogie ne serait pas un frein face à de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue, choix qui avait d'ailleurs été fait avec la série Fallout. De plus, si Mass Effect a connu un tel succès, c'est parce que son univers était déjà attrayant pour un large public, habitué au space opéra ou non. Reste donc la possibilité que le script fasse trop de fanservice et ou ne soit pas assez didactique sur son univers. Mais dans ce cas, le problème ne viendrait pas du fait qu'il ne soit pas assez attrayant pour les non-joueurs et joueuses, mais qu'il ne soit pas bien écrit tout court. On sait que l'adaptation transmédia d'un jeu vidéo peut être compliquée, notamment lorsque le jeu n'a entre guillemets rien d'autre à raconter que son gameplay. Coucou l'adaptation de Mario des années 90. Mais l'univers de Mass Effect est fondamentalement narratif, et il est assez ouvert pour qu'on puisse y mettre ce que l'on veut. Preuve en est des comics et romans qui ont dérivé de la licence. Du coup, avec cette remarque de Peter Friedlander, on peut autant s'inquiéter que le monsieur veuille effacer tout ce qui faisait le sel de la licence, que de se rassurer en se disant qu'il a la volonté que la série s'affranchisse réellement de Shepard pour être une œuvre autonome. Du coup, je me tourne vers vous pour avoir votre avis sur la question et connaître votre point de vue sur comment gérer les adaptations transmédia, qu'elles soient du jeu vidéo vers la série ou le film, ou l'inverse. Et peut-être que je vais demander son avis à Raquel, parce que tu as travaillé justement sur une adaptation transmédia avec Avatar Frontiers of Pandora.
C'est vrai, j'ai fait ça, effectivement. J'avais même pas pensé à cet angle-là. C'est intéressant. En toute transparence, je suis vraiment très très fan de la licence Mass Effect en particulier. Je pense que, en fait, moi, ce qui m'inquiète avec tout ça, avec toute cette tendance à vouloir faire des séries et à vouloir avoir ces adaptations-là, c'est que je m'interroge toujours sur pourquoi. je m'interroge sur l'intention qui a mené à ça. Parce que, enfin, je pense qu'on est tous très conscients, enfin, à peu près, c'est peut-être moi qui suis trop cynique et je veux bien l'entendre, mais je pense qu'on est assez conscients du fait que, à mon avis, l'incentive de vouloir, enfin, d'avoir ce boom d'adaptation de jeux vidéo en série et en film et tout ça en ce moment, c'est que, je sais pas, il y a un appel d'air dans le marché pour ça actuellement, il y a de l'investissement qui se fait, il y a eu des films qui sont sortis qui ont eu de l'argent et du coup tout le monde veut un petit peu se mettre dedans. Et ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas, que du coup ça veut, qu'il y a rien à dire de faire ce changement-là, de faire ces adaptations-là, mais il y a quand même une vraie question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est dans ce propos-là, c'est est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent tirer de prendre cette histoire et de lui donner un nouveau format, à part mettre l'univers devant des yeux de plus de personnes. Et je pense que ça, comme incentive seul, c'est un peu questionnable. Enfin, je sais pas si moi, je suis personnellement très convaincue. Mais après, voilà. Genre, par exemple, bon, je vais pas pouvoir rentrer beaucoup en détail sur Avatar pour un ensemble de raisons. Mais je pense que en tout cas, il y avait certains aspects où il y avait un angle, une perspective, une réponse au film qui n'était pas inintéressante. Et après, il y a d'autres choses à en dire. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail sur mes opinions sur ce projet. Mais voilà, je pense que en fait, dans tous les cas, il faut. En fait, c'est ça que je vois pas actuellement, et c'est ça qui m'inquiète dans ces conversations-là. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui sache exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, peut-être que je suis sûre qu'il y a plein de gens dans l'équipe qui savent exactement pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de vision unifiée, ça peut être un peu inquiétant, surtout sur un univers aussi ouvert et aussi des années 2000. Avec tout mon respect, mon amour pour cette IP, mais est-ce que il va y avoir une possibilité d'avoir le recul dessus nécessaire pour en avoir une nouvelle approche? Je ne sais pas. Ça, c'est mon opinion.
Anna, tu voulais réagir?
Oui. Forcément, ça me fait penser à ma chronique, du coup, sur les attentes de fans. Je pense que c'est un sujet qui est toujours très tendu, parce que d'une part, c'est une forme de réécriture, comme toute réécriture. Ça transforme l'œuvre d'une certaine façon, tout en ayant pour vocation d'y rester le plus fidèle possible. Donc, on voit déjà la contradiction. C'est jamais facile de trouver un équilibre. Et parfois, je me pose la question de se demander si justement ce serait pas mieux qu'une réécriture, comme une série ou un film, puisse aborder un nouvel aspect de la franchise, plutôt que de montrer en fait ce qu'on voit déjà à travers un jeu. Je sais pas, hein, c'est vraiment une question que je me pose, parce que ça peut être à la fois très bien, comme ça peut être extrêmement décevant. Et peut-être que pour éviter ces attentes et ces déceptions, on pourrait plutôt prendre le parti d'aller explorer un nouvel univers. Mais encore une fois, c'est assez risqué, parce que je pense à la série sur Le Seigneur des Anneaux, sur Prime, dont la saison 1 avait fait fortement débat. Et moi, personnellement, quand je l'avais regardée, j'avais pas fini de la regarder, justement, j'avais trouvé ça vraiment terrible. Et j'avais pas du tout accroché. Et finalement, j'ai quand même donné une chance à la saison 2 qui m'a moins déçue. Et je me suis dit, il y a quand même une volonté d'aller chercher autre chose. Après, je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on est aussi attaché à l'œuvre et à la manière dont cette œuvre a pu marquer, on va dire, la société, marquée en tout cas, c'est les personnes qui, les auditeurs, les auditrices, les personnes qui l'ont regardée. Et du coup, c'est vrai que c'est une excellente question que je me pose. Et j'aimerais pas être à la place, en tout cas, des personnes qui doivent produire ces contenus, parce que je pense qu'il y a énormément de pression, énormément de choix créatifs à faire qui sont très difficiles, et en même temps, une pression financière colossale à gérer, en plus des attentes des fans.
Titilic, Calypso, tu voulais dire quelque chose?
Yes, merci déjà pour les échanges. Moi, c'était plus un avis perso et un peu global. C'est j'ai un peu un ras-le-bol des adaptations, mais qu'il s'agisse de jeux vidéo ou quand on voit par exemple Disney qui ressort des classiques en live action sans forcément ajouter quoi que ce soit. ça fait beaucoup recyclage. Alors après, effectivement, comme il a déjà été discuté, ça dépend de l'angle qui est attaqué, ça dépend aussi des ambitions qu'il y a derrière, de peut-être séduire un nouveau public, faire venir des nouvelles personnes dans l'univers. Mais c'est vrai que ça pose pas mal question de cette envie de toujours... Enfin, en tout cas, en ce moment, je trouve qu'il y a quand même cette tendance de faire des remakes, enfin, reprendre certains jeux vidéo pour les adapter. Par exemple, là, il va y avoir la série Life is Strange. C'est à se demander quel est l'intérêt derrière ça. Alors, je me suis pas beaucoup renseignée, par exemple, pour discuter de Life is Strange, mais... Il y a déjà un comics qui est sorti dessus, il y a déjà le jeu, en plus là ils sont pas mal en train d'essorer le premier opus, il y avait la suite du premier opus qui est sorti il me semble l'année dernière, et là il y a la suite de cette suite qui vient de sortir ou qui va sortir, moi ça me pose beaucoup de questions en tout cas, et quand je vois des choses comme ça, ça m'évoque plutôt un peu d'une sorte de pas de déception, mais un peu genre, je suis un peu lassée, quoi. Je me dis, ouais, bon, pourquoi est-ce qu'on revient toujours à des choses qui existent déjà? Pourquoi, alors à la limite, pourquoi pas faire des prequels, essayer de sortir un petit peu en explorant certains personnages? Alors, des fois c'est fait, c'est chouette, hein. Mais moi, c'est un peu mon avis sur la question, être un petit peu lassée de toujours voir un peu des. Pas beaucoup de. Enfin, peut-être pas forcément. C'est peut-être pas forcément du dire qu'il n'y a pas beaucoup de renouveau, mais ça fait un peu redite. Et du coup, je sais pas. Voilà, c'est mon avis pas très construit et un peu aigri.
Ingrid, tu voulais rajouter quelque chose?
Je partage un petit peu ce point de vue. Hein. Tu parles de Life Strange, moi j'ai un petit peu les interrogations qui étaient liées à Last of Us sur l'ironie de dire c'est un jeu qui de base est censé mimer le cinéma, et on se retrouve avec une série qui finalement mime un jeu qui mime le cinéma, ce qui devient un peu étrange. Mais pour réagir à l'article en lui-même, et à titre vraiment très très personnel, moi je suis plutôt soulagée du changement d'angle, parce que au-delà du deuil, on va dire, du gameplay, c'est-à-dire que on est quand même sur des expériences... où le choix est primordial, on n'est pas sur des jeux où le choix est si varié et important qu'il puisse l'être dans un BG3, bon c'est pas la même époque non plus, c'est qu'en fait c'est des jeux où je pense que c'est comme Dragon Age, hein, ou KOTOR un peu avant, donc tous les jeux BioWare, où tout le monde a eu un peu son expérience, sa manière de façonner son attache à la série. Il y avait un article il y a plusieurs années de Canard PC, si je ne dis pas de bêtises, où la rédactrice parlait notamment de son rapport à son orientation sexuelle et de la construction qui s'était faite par rapport à Dragon Age, son expérience de Dragon Age. Et je trouve ça intéressant avec le fait que ce sont des jeux qui ont permis d'avoir de la représentation, de trouver des échos avec des vécus, de représenter des romances potentiellement de même genre, etc. Et en fait, je me doutais très bien que déjà, il fallait faire le deuil de se dire, évidemment que la série va pas faire des choix, et évidemment qu'il y a de fortes chances que ce qui soit montré, ce soit juste le lore, et que finalement on suive l'aventure de Jom, l'homme Shepard, qui vit sa romance très certainement avec Miranda, etc. Et je pense que ça aurait été encore plus douloureux pour les fans et pour toutes les personnes qui ont connu et qui n'ont pas joué John, l'homme qui romance Miranda, parce que ça aurait pas mal affecté, plus que de raison, nos expériences personnelles. Et du coup, voilà, d'un point de vue hyper, hyper perso, peut-être un peu égocentrique, égoïste, je suis plutôt soulagée que ça choisisse un autre angle et parler de l'univers de manière générale plutôt que de transformer et potentiellement un peu dégrader la vision qu'on peut avoir après, effectivement, sur cet univers. Je pense qu'il faudrait gagner un petit peu de maturité sur pas mal de sujets pour éviter de tomber dans certains écueils qu'on redécouvre quand on rejoue au jeu, à la série aujourd'hui. Mais voilà, c'était mon ressenti très, très singulier.
Eh ben merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette discussion. Et Anna, je te repasse le micro.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris.
Nous remercions Raquel d'avoir accepté notre invitation, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses pour leur participation, Vincent pour la programmation musicale et Lazare pour la technique. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi. Cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur No Turning Back, composé par Olivier de Rivière, avec la participation d'Eric Maria Couturier pour l'OST de A Plague Tale Requiem.